Il est déjà sur le départ. Raymond Domenech quitte le FC Nantes. Arrivé fin décembre comme entraîneur, il a été limogé cet après-midi après seulement 7 matchs de championnat, alors que l'équipe est désormais en position de barragiste en Ligue 1. Les Canaries qui affrontaient cet après-midi Lens en 32e de finale de la Coupe de France. Eh bien, Lens s'est qualifié en battant Nantes 4-2 lors d'un match plutôt débridé et marqué par une pluie de but. C'est la fin de ce journal international, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté. Il va être 18h10 ici à Paris.
Décryptage.
Radio G.
101.5 FM.
Radio G, et maintenant c'est l'heure de retrouver l'oreille curieuse, votre quotidienne dédiée aux actualités culturelles, locales, aux découvertes, aux recommandations, tout ce qu'on a jugé bon et réjouissant à mettre dans cette émission. On est bien sûr mercredi et c'est le jour où on parle du cinéma à l'antenne avec le guichet choral et Céleste. Salut Céleste.
Salut Anne-Li.
Ça va?
Ça va et toi?
Tu veux nous dire de quoi tu vas parler? Et oui, ça va.
Moi je vais parler, si tout va bien, de Pixar.
Très bien.
Voilà, j'en dis pas plus.
Si tout va bien, oui, tout ira bien sinon.
Oui, mais de toute façon c'est mon script.
L'autre partie de cette émission, comme chaque mercredi sur deux, c'est le prêt à penser avec Nicolas, qui nous parle de psychologie sans mots compliqués, avec des choses très concrètes. Et ce soir on parlera des téléphones portables et des enfants. C'est un peu une suite de la chronique de la semaine dernière qui abordait qui abordait les enfants et les écrans. Bien sûr, c'est Anne-Li derrière le micro, tout le monde le sait. Je salue quand même Mehdi qui est dans le studio.
Salut.
Ah, trop sympa. Et je salue aussi tous les auditeurs et auditrices de la MAP. Je fais un super big up parce qu'on a un cluster d'écoute à la MAP. Si vous-même, en écoutant, vous ne savez pas ce que ça signifie, eh bien une AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est le meilleur plan pour manger des bons trucs. Légumes, pain, tout ce que vous voulez, œufs. Faites vos recherches, il y en a à Angers et il est encore temps de s'inscrire pour survivre à cette année 2021. Voilà pour l'info. Bien sûr, il y a un proverbe dans cette émission. Et ce soir, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. On débute en musique avec un titre de Alfie Templeman qui s'intitule « Things I Thought Were Mine ». Je prends des cours d'anglais le soir pour cette émission.
Thank you.
stuck, wasting time. The things I thought were mine, heaven only knows I need him. One day you are here, the next day you are gone. What's that all about? Where did it all come from? You say I'm the wrong guy, so sit up and stand by. Well, I don't know, babe. This is what I like. I'm trying to get my life on track.
Et maintenant, on va parler de cinéma avec le Guichet Choral et Céleste.
S'il y a bien un studio d'animation que j'affectionne tout particulièrement, c'est bien Pixar. Depuis ma plus tendre enfance, je consomme beaucoup de leurs films. J'avais même un Buzz l'éclair articulé du film Toy Story dans ma chambre. En grandissant, cette passion s'est amplifiée lorsque j'ai développé mon esprit critique et que j'ai appris à repérer le sous-texte des différents films. J'ai remarqué que si j'aimais énormément les longs-métrages du studio, c'était, entre autres, grâce au traitement particulier qu'ils donnent à leur scénarii, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bonsoir, je suis Céleste, et aujourd'hui, on va parler de Pixar et de leur traitement des histoires. Un peu d'histoire pour débuter, comme d'habitude. Pixar a commencé sous le nom de Graphic Groups, une sous-branche de Lucasfilm, la fameuse boîte de production de George Lucas qui a produit tous les Star Wars. Graphic Groups s'est d'abord contenté de travailler sur des séquences de films produites par Lucasfilms, jusqu'à ce qu'un certain Steve Jobs rachète la branche à la suite de l'échec cuisant du film Howard, une nouvelle race de héros. Cette nouvelle société indépendante était dirigée par Edwin Catmull, l'un des grands pionniers de l'animation 3D par ordinateur, et Alvira Smith, le créateur des logiciels de dessin sur ordinateur, rien que ça. De base, Pixar était une entreprise de matériel informatique, dont le produit principal était le Pixar Image Computer, utilisé surtout par des organismes gouvernementaux et par le secteur médical. L'un des principaux acheteurs de Pixar Image Computer était Disney, qui utilisait le système afin de passer de la méthode laborieuse d'animation qui consistait à ancrer et à peindre tous les dessins à la main, à une méthode bien plus automatisée et donc plus efficace. Malheureusement, le Pixar Image Computer ne s'est jamais bien vendu, et étant donné que les mauvaises ventes des ordinateurs menaçaient de mettre la société en faillite, le département animation de John Lasseter, qui sera plus tard le réalisateur du fameux Toy Story, a commencé la production de publicités animées par ordinateur pour des entreprises extérieures. Durant cette période, Pixar a commencé à entretenir de solides relations avec Disney. Et d'ailleurs, en mai 91, il signe un contrat avec eux pour produire 3 longs métrages d'animation, dont le premier était Toy Story, réalisé donc par Pixar et produit par la firme aux grandes oreilles. Malgré cela, la société coûtait tellement cher que Steve Jobs a envisagé de la vendre. C'est seulement après la confirmation que Disney distribuera Toy Story pour les fêtes de fin d'année de 95 qu'il a décidé de lui donner une autre chance. Le film a finalement recueilli plus de 350 millions de dollars de recettes dans le monde, donc énorme succès financier et populaire. Après ce grand succès, la société Pixar a signé un accord en 97 pour coproduire avec Disney 5 longs métrages d'animation totalement en images de synthèse durant les 10 années suivantes. L'argent récolté permet à Pixar d'emménager dans des nouveaux locaux à Emeryville, désormais nommé Pixar Campus. Durant la production de Toy Story 2, Pixar et Disney commencent à avoir des points de désaccord. Toy Story 2, la suite de Toy Story donc, était d'abord destinée à une sortie directement vidéo, comme toutes les autres suites Disney. Pour eux, cette production ne faisait pas partie du contrat des trois films signés en 91. Toutefois, le film est finalement sorti en salle et a remporté un très grand succès. Pixar a alors demandé qu'il soit inclus dans les trois autres films prévus par le contrat, mais Disney a refusé. Ils sont donc vus contraints de développer trois autres films inédits, exception faite d'éventuelles suites. Pixar produit donc Monstres et compagnie, réalisé par Pete Docter, Le Monde de Nemo d'Andrew Stanton et Les Indestructibles de Brad Bird. Début 2004, avec la fin imminente du contrat entre Disney et Pixar, les deux sociétés ont cherché à définir un nouveau contrat, Pixar le souhaitant plus équitable que le précédent. Le nouveau contrat ne portait donc que sur la distribution, Pixar désirant contrôler la production et avoir la propriété de leurs films. La société voulait également financer leurs films et recueillir la totalité des recettes. Plus important encore, dans le cadre d'un accord sur la distribution avec Disney, Pixar a exigé un contrôle sur les films déjà en production qui étaient sous les conditions de l'ancien accord, y compris Les Indestructibles et Cars. Disney a jugé ces conditions inacceptables, mais Pixar n'a pas cédé. Les désaccords entre Steve Jobs et le PDG de Disney, Michael Eisner à l'époque, ont rendu les négociations encore plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. En janvier, Jobs déclare que Pixar s'emploie activement à la recherche d'autres partenaires que Disney. Et de son côté, Eisner annonce que la société Disney vient de fonder un studio d'animation en images de synthèse, Circle 7 Animation, qui a pour but de produire Toy Story 3, donc un magnifique coup de couteau dans le dos. Après une longue interruption, les négociations entre les deux entreprises ont repris après le départ d'Eisner de Disney, fin 2005. Le projet entre Jobs et Robert Iger, nouveau PDG de Disney donc, se transforme non plus en un contrat de distribution mais en acquisition de Pixar par Disney. Le 24 janvier 2006, Disney annonce le lancement d'une grande opération visant à acheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars. En signe d'apaisement, le studio Circle 7 Animation est lui officiellement fermé le 21 mars 2006. L'acquisition a ensuite été finalisée le 5 mai 2006 et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Disney Pixar sur tous les films. Et voilà pour la partie histoire et gros sous-sous. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse, à savoir le cinéma, Pixar, depuis ses débuts, a été un pionnier dans l'animation 3D. Toy Story est même le tout premier long-métrage entièrement en images de synthèse. Ce qui n'a plus tellement de valeur aujourd'hui, car les plus grands blockbusters sont presque entièrement en images de synthèse aujourd'hui. Toujours dans une volonté de se renouveler, Pixar a des projets qui vont au-delà de l'animation par ordinateur, avec par exemple un film en prise de vue réelle, intitulé de base 1906 et finalement rebaptisé À la poursuite de demain, réalisé par Brad Bird, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. Et c'est ça, du coup, l'état d'esprit de Pixar, toujours chercher à innover et à explorer. C'est pour ça que, bien qu'ils aient fait des suites à leurs plus grands succès, Toy Story, Les Indestructibles ou Cars, ces films sont allés chercher plus loin que leurs prédécesseurs, ne restant pas sur des bases déjà acquises. Vous allez comprendre après. L'une des plus grandes devises de Pixar est « La technique doit toujours servir l'histoire et non l'inverse ». Évidemment, le plus important dans un film, c'est l'histoire. Lorsqu'on va au cinéma, ça semble un peu bizarre de dire ça en temps de Covid, donc on va dire lorsqu'on regarde un long-métrage à la télé, on ne se dit pas « Waouh, ce film était incroyable, j'ai adoré l'utilisation de la Panasonic pour créer une atmosphère ». Non, à moins d'être quelqu'un qui aime aller vers de l'analyse technique poussée comme moi, ce qui nous intéresse, au tout premier visionnage du moins, c'est l'histoire racontée. Pixar, donc, a décidé de se concentrer davantage sur leurs histoires avec un traitement assez particulier. Pourquoi particulier ? Eh bien, un très grand nombre de scénaristes de la boîte ont pris le parti de raconter des histoires à toutes les générations, là où l'animation grand public était, et est encore aujourd'hui, bien plus vue comme un média pour les enfants. Le réalisateur Brad Bird, à l'origine des Indestructibles, a d'ailleurs déclaré à ce propos
« Beaucoup pensent que les cartoons de Bugs Bunny sont pour les enfants. Mais s'ils avaient fait leurs recherches, ils sauraient que ces cartoons étaient pour les adultes qui allaient voir Casablanca ou le Faucon Maltais. Ce n'était pas vraiment pour les enfants. Il y avait assez d'éléments comiques pour divertir les enfants, mais ils n'étaient pas le public cible. »
Et c'est exactement la direction qu'a pris Pixar depuis ses débuts. Faire des films qui peuvent divertir les enfants, mais qui parlent aussi, et parfois surtout aux adultes, notamment Les Indestructibles, qui a une classification PG aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il n'est pas approprié pour les jeunes enfants. Cette orientation est d'autant plus visible au niveau des thèmes abordés. Je vais prendre un exemple un peu plus parlant. Sortis respectivement en 95, 99, 2010 et 2019, les films Toy Story ont marqué les enfants nés de 90 à 2005. Le premier raconte l'histoire de Woody, cow-boy de son état, et qui voit arriver dans sa vie un ranger de l'espace nommé Buzz l'éclair. J'ai oublié de préciser que les personnages principaux sont des jouets qui s'animent lorsque les humains sont absents. Le thème de ce film est celui de l'enfance et des premiers changements de la vie. Woody est comme un enfant jaloux du nouvel arrivant qui attire toute l'attention, spécialement celle de l'enfant qui joue avec lui, Andy. Buzz représente le nouveau-né de la famille. Il ne parle pas très clairement, il est dans son propre monde. Ils expérimentent ensuite ensemble les premiers dangers de la vie, comme le fait d'être abandonné, les individus mal intentionnés qui se servent d'eux pour leur propre bonheur sans se soucier de leurs ressentis, représentés par le voisin Sid, maltraitant les jouets au point de les mutiler. Au début adversaire, Woody et Buzz vont apprendre à s'aimer mutuellement et à s'entraider pour se retrouver saufs comme de vrais frères. Le deuxième film explore l'âge adulte, l'obsolescence et le fait de grandir trop vite et d'être une vision idéalisée fausse de ce qu'on est. Dans ce film, Woody se fait kidnapper par un collectionneur voulant le revendre à un musée pour se faire un max de moulin. Il apprend qu'il est le produit dérivé d'une série télévisée avec des marionnettes, nommée Western Woody. Les rôles sont ici inversés puisque c'est Buzz qui va apprendre à son ami le but d'un jouet, celle de s'amuser avec et non de le laisser dans une boîte pour faire joli, là où dans le premier film, Buzz se prenait pour un réel rongeur de l'espace, ne comprenant pas le sens du mot jouet. Pixar se permet d'ailleurs un petit tac aux collectionneurs qui laissent leurs jouets prendre la poussière sur des étagères au lieu de laisser leurs enfants jouer avec. Enfin, on a à nouveau le thème de la peur de l'abandon avec Woody qui perd son bras au tout début et craignant de se faire délaisser par l'enfant qui joue avec lui. Cette peur de l'abandon va faire naître en lui une envie d'être une version parfaite de lui-même, mais artificielle, pour que personne ne l'abandonne. Cette crainte est aussi présente chez le nouveau personnage de Cowgirl, Jessie, délaissée par sa propriétaire lorsque celle-ci a grandi, et ne souhaitant plus être obsolète aux yeux des gens, car être délaissée par les jouets, c'est comme être mort. Grosse ambiance. Le troisième volet se passe quelques années plus tard. Andy, l'enfant qui joue avec Woody et Buzz, a bien grandi et part désormais pour l'université. Les jouets, ne voulant pas être mis au rebut, trouvent un moyen de se retrouver dans une garderie remplie d'enfants, afin que l'on joue avec eux pour l'éternité. Malheureusement, une fois passé le joli arc-en-ciel du panneau, le cauchemar commence pour eux. Optant un ton un peu plus sombre que ses prédécesseurs, Toy Story 3 parle de grandir et d'avancer dans la vie. Lorsqu'Andy, à la toute fin du film, spoiler, donne ses jouets à une autre enfant dans une salle absolument puissante et magnifique, on voit tout le thème de laisser le passé derrière nous et avancer dans la vie. Il ne donne pas vraiment ses jouets, il présente, d'une façon très personnelle, des amis de longue date à quelqu'un qui saura en prendre soin, quelque chose qu'il ne pourra plus faire en allant à l'université. En faisant cela, il se détache de son enfance, mais pas avec dédain, avec poésie. Il lègue cette partie de sa vie à quelqu'un d'autre, la laissant se poursuivre au lieu de la voir mourir. Woody apprend également à se détacher de son propriétaire, lui qui avait constamment besoin d'Andy depuis le début du premier film. Il poursuit cette évolution dans le dernier film, que je ne vais pas vous divulgâcher pour vous laisser le plaisir du visionnage, mais il est tout aussi beau, poétique et bien fichu que les trois autres. Chez Pixar, on a également des scénaristes qui questionnent l'âme humaine, comme Pete Docter, réalisateur entre autres de Vice Versa et Soul. Le premier parle de cinq émotions, joie, colère, peur, tristesse et dégoût, qui vivent dans la tête de Riley, une jeune fille, à l'aube de son adolescence. Ce film part de l'importance des émotions, de ne pas se reposer que sur une seule, car quand celle-ci disparaît, on se sent un peu démuni. Oui, ça parle un peu de dépression, d'angoisse et de perte de repères. Quant à Saul, il vient de sortir, donc je vous laisse la surprise, mais il explore des thèmes comme la mort, l'héritage et la poursuite désespérée de certains rêves. Le génie de Pixar est d'arriver à aborder ces sujets dans un film qui est regardable et appréciable par tous les âges, car tous ces thèmes sont souvent dissimulés dans le sous-texte et dans les personnages. Les enfants y voient donc un film d'animation rigolo avec une belle morale, et les adultes, qui peuvent saisir davantage grâce à leur expérience, comprennent la subtilité de certains éléments et sont parfois bien plus impactés par l'histoire. Il arrive même qu'en grandissant, un Pixar devienne bien plus puissant que lors du premier visionnage. Par exemple, j'apprécie bien plus Toy Story 3 maintenant que lorsque je l'avais vu au cinéma quand j'avais 10 ans. Et c'est pour ça que j'apprécie autant Pixar. C'est grâce à cette dimension qu'ils arrivent à donner à leurs histoires. C'est plusieurs couches qui se superposent tout en donnant un film appréciable par tout le monde. Pour clôturer cette chronique, je vous laisse avec We Belong Together de Randy Newman, venant de Toy Story 3. Voyez des films, regardez du Pixar, portez-vous bien, salut!
tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. It's sincerely from the bottom of my heart. I just can't take it when we're apart. We belong together. We belong together. Yes, we do. You'll be mine. Oh, well. We belong together.
Voilà pour un extrait de la BO de Toy Story 3. On est tous en train de se secouer, pour, enfin, personnellement, c'est ce que je fais. Et on se remémorait tous ces Pixar trop géniaux qu'on avait vus.
Exactement.
Voilà. Un petit flash. Moi, j'ai beaucoup aimé là-haut. Voilà, je vous le recommande. On pleure beaucoup au début, mais qu'est-ce que c'est bien.
Personnellement, je suis plus les Indestructibles pour la vision de la famille et la créativité de la réalisation.
Attention, c'est la fin de la chronique. On
oui,
relance
de toute façon, j'en parlerai la semaine prochaine.
Oh là là. Et toi, Mehdi ?
Moi, c'est Monstres et Compagnie.
Ah, j'avais levé le mauvais micro.
Ah mince, c'est Monstres et Compagnie.
Il y a vraiment des gens incompétents qui travaillent à Radio G. Vous écoutez, bien sûr, l'oreille curieuse. Et nous attendons vos lettres de réclamation. Mais l'émission continue, bien sûr, avec un des rendez-vous du mercredi, le prêt-à-penser, proposé par Nicolas.
Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau Prêt-à-penser, la chronique psy de l'oreille curieuse sur Radio G. C'est une nouvelle fois Nicolas qui va tenter de vous donner le point de vue d'un psychologue sur un sujet qui nous occupe, voire qui nous préoccupe. Il y a 15 jours, je vous parlais de la règle des 3, 6, 9, 12, une règle repère pour les parents quant à l'utilisation des écrans par leurs enfants. Je vous avais promis de vous parler plus spécifiquement aujourd'hui du téléphone, et c'est ce que nous allons faire. Les parents et les enfants ont souvent tendance à se chamailler sur cette question de plus en plus tôt du téléphone portable. Parfois même, le conflit n'oppose pas forcément les parents et les enfants, mais quand les parents ont donné accès, ont accepté d'acheter un téléphone à leurs enfants, eh bien, ils peuvent se retrouver assaillis de reproches par le cercle social plus large que peut constituer l'école, par exemple, ou la famille élargie, ou l'entourage social, les amis, etc. Il est vrai que cette question du téléphone, elle suscite toujours beaucoup de réactions, surtout parce qu'on voit de plus en plus d'enfants très jeunes qui possèdent un téléphone portable. Sans dire que c'est vraiment la norme, je pense qu'il n'est pas si rare que ça aujourd'hui, en 2021, de voir fleurir des téléphones portables à l'école primaire, en CM1 ou CM2. Alors pourquoi ? C'est la question qui va peut-être nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi en tant que parents, eh bien, on a tendance à être soumis à cette pression ou à ce besoin qui nous pousse à fournir un téléphone portable à un enfant de cet âge-là. Alors d'expérience, par rapport à ce que je reçois dans mon cabinet, je peux identifier trois raisons principales qui font que les parents accèdent à la demande de leurs enfants. Le premier des motifs, c'est la réassurance parentale, c'est-à-dire j'achète un téléphone à mon enfant pour qu'il puisse me joindre en cas de besoin. Comme ça, il est sécurisé et moi aussi je suis sécurisé puisque je sais qu'il ne peut pas se retrouver coupé du monde, coincé quelque part. Il va pouvoir m'appeler puisqu'il va avoir mon numéro et un téléphone en accès permanent, étant donné que c'est vrai que les téléphones portables ont eu l'effet aussi de chasser, de supprimer les cabines téléphoniques de nos rues, et donc ça apparaît comme un média, en tout cas un mode de communication privilégié. Donc, la deuxième, qui est un petit peu liée à celle-ci aussi, comme motif d'achat d'un téléphone portable, eh bien, c'est quelque chose qui va plus relever de la sécurité affective. C'est-à-dire, je lui donne un téléphone pour qu'il puisse me joindre en cas de besoin, certes, mais pas forcément en cas de besoin pratique, mais plutôt en cas de besoin affectif. Je lui donne ce téléphone pour qu'il puisse m'appeler en cas de chagrin, si jamais avec le groupe, à l'école, avec son groupe de copains, ça ne se passe pas bien, qu'il est en détresse, qu'il se sent seul, isolé, eh bien il va pouvoir, comme ça, dans la cour de récréation, m'envoyer un texto ou m'appeler pour que je puisse intervenir en tant que parent et le rassurer. Voilà. Enfin, la troisième des raisons, eh bien, c'est une pression sociale que subit l'enfant. C'est-à-dire que le téléphone apparaît comme un accessoire de mode, mais pas simplement de mode, aussi, comme tous les accessoires de mode d'ailleurs, un instrument d'intégration dans un groupe. Et donc les parents ont parfois cette angoisse de nuire à l'intégration de leur enfant dans le groupe en les stigmatisant par l'absence de téléphone portable. Si un parent commence à sentir qu'autour de l'enfant, tous les enfants commencent à avoir un téléphone sauf le leur, eh bien ces parents-là vont avoir une tendance à faire des concessions sur leurs principes et à accéder à la demande de l'enfant. Alors, l'idée, c'est pas ici de dire si c'est bien, si c'est mal. Je suis pas vraiment dans ce genre d'optique. Moi, je suis pas vraiment dans l'optique hygiéniste psychologique. Je préfère plutôt aider les personnes à identifier effectivement les tenants, les aboutissants de leur choix. Donc, je vais vous exposer ici, maintenant que je vous ai donné les motifs qui peuvent justifier l'achat d'un téléphone à un enfant, eh bien, je vais m'attacher à vous en présenter les limites. Non pas pour vous démontrer à quel point ces raisonnements sont stupides, parce que je ne pense pas qu'ils le soient, mais plutôt pour que vous puissiez être alerté sur parfois la face cachée de ce genre de démarche, les choses peut-être moins évidentes et peut-être plus du côté négatif, mais au moins si vous êtes averti et si vous le faites en toute connaissance de cause, eh bien je pense que votre choix n'en sera que plus pertinent. Alors les limites, je vais utiliser à peu près le même plan. Les limites de la réassurance parentale par le téléphone portable, eh bien, c'est que cette démarche s'appuie sur le principe, vieux comme le monde, de pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, il va m'appeler en cas de besoin et pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça veut dire que, logiquement, si je ne suis pas appelé, eh bien, c'est que tout va bien. Sauf que le fait que l'enfant ait cette potentialité d'appel permanent, eh bien, cela va induire un effet pervers de cette démarche chez le parent, c'est-à-dire que ça va pouvoir générer plus d'angoisse que de réassurance, puisque en tant que parent, vous n'allez pas être dupe longtemps, vous allez vite vous apercevoir que dans le cas d'un téléphone portable dans la poche de votre enfant, pas de nouvelles, ça veut aussi dire, ça peut potentiellement vouloir dire très mauvaise nouvelle, justement. C'est-à-dire que la question de « Tiens, il ne m'appelle pas, donc tout va bien », va se retourner en « Pourquoi il ne m'appelle pas ?» Donc vous voyez bien qu'il y a une limite et que ce raisonnement-là n'est pas si simple que cela. Par rapport à la sécurité affective maintenant, le fait de rassurer son enfant par téléphone, de pouvoir le faire en tout cas, si jamais ça se passe mal à l'intérieur de son groupe. Alors, cela s'appuie sur le fait que vous vous identifiez comme ressource affective, comme ressource de réassurance, et vous avez raison en tant que parent de vous identifier comme tel, parce qu'effectivement, la maison, l'intime, le lien parent-enfant, c'est le lieu de l'affectif. Ça peut être le lieu aussi de la régression réassurante pour l'enfant. Quelque chose qui va lui permettre justement de se regonfler pour pouvoir affronter des environnements sociaux peut-être un petit peu moins évidents, un petit peu plus complexes, voire un petit peu moins bienveillants. Mais toujours est-il que ce contrat d'être toujours là pour le rassurer, pour rassurer votre enfant, c'est un contrat que vous ne pouvez pas tenir. C'est un contrat qui est un contrat trompeur, puisque la réalité des choses, c'est que en tant que parent, vous ne pourrez pas être toujours là pour rassurer votre enfant et lui permettre d'affronter les épreuves sociales que toute vie implique, que toute vie en société implique. Et finalement, par cette alternance de milieux, c'est-à-dire ces va-et-vient de la cellule affective, de la cellule familiale, de la maison, eh bien, dans ces va-et-vient, votre enfant expérimente à dose homéopathique, si j'ose dire, quelque chose de l'ordre de l'émancipation. C'est-à-dire que pour être quelque part, pour être loin de vous, il faut qu'il le soit vraiment. Et puis ensuite, dans les retrouvailles, eh bien, va se jouer la réassurance. Mais si il y a un lien permanent qui n'est jamais coupé à travers le téléphone portable, eh bien, ce va-et-vient devient moins évident. Et donc, le développement des ressources et le travail de l'enfant quant à la séparation, eh bien, se trouve aussi quelque part un peu complexifié. Bon, on voit bien en disant tout ça qu'il y a deux parties du problème dans ce motif, en tout cas d'attribution d'un téléphone portable à un enfant. Les deux parties du problème, c'est la possibilité d'éloignement de l'enfant vis-à-vis des parents, mais c'est aussi l'acceptation des parents que leur enfant, plus il avance dans la vie, eh bien, plus il s'éloigne d'eux, quelque part. Il s'éloigne en tout cas de la relation de dépendance qui pouvait le caractériser tout petit enfant. Donc, on est sur un noyau de quelque chose d'assez complexe qui doit vraiment se travailler. Le troisième motif, c'est celui de la mode, de l'intégration sociale. Et là, encore une fois, attention, il est vrai que dans beaucoup de cas, cela provoque un effet d'assimilation assez important. Cela dit, soyez attentifs à ne pas trop aussi valoriser l'identification à l'objet possédé comme denrée identitaire, si j'ose dire. Le problème du matériel comme objet d'identification, comme objet de valorisation, comme objet d'appartenance, comme signe d'appartenance à un groupe, eh bien, c'est que le matériel, eh bien, il a ses limites. Il se brise, il se démode, il se perd, il se fait voler. Donc, mettre ses ressentis identitaires et sa valeur, quelque part, vis-à-vis du groupe dans un objet, eh bien, c'est prendre le risque que de se retrouver démuni quand cet objet ne sera plus là. Donc, que ce soit un biais, en tout cas, pour casser certaines barrières sociales, pourquoi pas, et c'est vraiment, me semble-t-il, le cas. Ce qui serait dommage, par contre, c'est qu'il suffise et que, en soi, cet objet téléphone remplace toutes les autres aussi ressources que votre enfant a à développer pour assimiler et se faire assimiler dans un groupe au travers autre chose, au travers des choses peut-être plus personnelles. personnel, plus propre à son caractère, à sa façon d'être avec les autres, à son mode relationnel, plutôt que aux objets qu'il possède et qui provoquent éventuellement l'envie, la convoitise des autres et un certain signe d'appartenance sociale. Alors, quoi qu'on en dise à travers toutes ces facettes du téléphone portable, eh bien, on peut quand même poser comme conclusion eh bien, que c'est faire tenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans un objet matériel. Hein. Et un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aussi être conscient du fait que quand on fait tenir autant de choses dans un objet possédé par l'enfant, un objet matériel possédé par l'enfant, eh bien, on augmente considérablement son niveau d'angoisse. Son niveau d'angoisse réel au niveau du risque de le perdre, de le casser, qu'on le lui vole. Hein, donc ça, c'est une fois que ça se passe, on peut voir des effondrements quand même très importants et assez disproportionnés quand même de la part des enfants à qui il arrive une mésaventure faisant que leur téléphone devient inutilisable. Donc ça, c'est clair qu'il faut être conscient aussi de ça et peut-être le parler avec l'enfant en amont plutôt que qu'il se retrouve face à un événement qui le traumatise, en tout cas, un événement qui le heurte de manière exagérée. Mais il faut aussi être conscient que ce n'est pas simplement quand la chose arrive que l'angoisse se manifeste, mais l'enfant, il est habité par le fait que ça peut arriver et donc il peut développer une angoisse un petit peu constante, même si rien ne s'est passé du côté du portable, mais une angoisse que cela se passe, c'est-à-dire la peur de le perdre, la peur qu'il se casse. Donc on peut aussi provoquer des choses d'un surinvestissement finalement de cet objet téléphone portable. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce prêt-à-penser, mais je n'oublie pas que le téléphone portable est aussi un smartphone et que qui dit smartphone dit accès aux réseaux sociaux. Et c'est le programme de mon intervention du prêt-à-penser dans 15 jours. Je vous parlerai plus spécifiquement des réseaux sociaux et de leurs effets de dépendance, à quoi, bien sûr, vous exposez vos enfants si vous leur donnez un téléphone portable avec données mobiles, c'est-à-dire avec la possibilité de se connecter sur ces réseaux sociaux. Je vous dis donc à dans 15 jours, dans un nouveau prêt-à-penser sur Radio G.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux !
Super !
Merci beaucoup Nicolas de nous donner toutes ces clés de compréhension. Tu as tout dit pour le prochain rendez-vous dans 15 jours. C'est la fin de cette émission pour ce soir. Nous on se retrouve demain à 18h10 et il y aura Margot pour nous parler de cinéma, Luc pour nous parler de littérature et on retrouvera le dispositif du service civique. Allez, je vous fais pas un très long laïus, je vous propose de nous quitter en musique avec IBI, No Man Is Big Enough For My Arms.
No man in the world. No man in the world.
The measure of any society is how it treats its women and girls.
No man is big enough for my arms.
It's women and girls.
We create
the smart, powerful, creative, accomplished young women.
We can fight.
I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me.
No man. No man is big enough for us.
Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. Of any society is how it treats its women and girls.
One stand still.
Your story is my story. Your story is my story.
Won't be shamed.
Your story is my story. Your story is my story. Story.
No man. No man is big enough for.
And I told them that they should disregard anyone who demeans
for devalues them, and that they should make their voices heard in the world. Of any society is how it treats its women and girls.
Radio G.
No man. 101.5 FM.
Check when I land. My bitch too foreign in a visa. Bitch, I don't need her. Pull a truck top with a eater. Yeah. Two seater. New bitch wanna fuck in my AP. Bitch. New freezer. Freezer. I woke up thinking about bands. Freezer. Hop over just to a check when I land. Yeah. Money way.
Money.
Diamonds. Flexing.
Flex.
I woke up rich, been a grip on the necklace.
Yeah.
I put the plug on three way. Maserati, go speed race.
Yeah.
Drop a baby on a bitch face.
Ooh.
More ice flexing this way. We put the world on the
wave.
Don't give a fuck cause I'm paid. Mo act in a lemonade. Pharmacy knowing my name. I bet that because she bougie. She saw my dick in a movie. Trap jumping like 2-3. She a foreign real free. My bitch too foreign in a visa. I don't need her. Pull a truck top with a eater. Two seater. New bitch wanna fuck in my AP. New freezer. I woke up thinking about bands. Hop over just to a check when I land. My bitch too foreign in a visa. I don't need her. Pull a truck top with a eater.
Yeah.
Two seater. New bitch wanna fuck in my AP.
Bitch.
New freezer.
Ooh.
I woke up thinking about bands. Hop over just to a check when I land.
Ooh, big shot.
Hold up, wait.
Peanut butter insides.
No.
Outside. Cocaine white body look like Gentiles. Gentiles.
Rule of the day. Get a view every day. Get a bitch with a tan by the pool every day. Get a clip with a plan. Give a jewel every day. I never sleep, I gotta eat, I gotta dance. I merely rap when I get that advance. How can I shop with like 64 amps? Talking to top about business again. He want a lot with new Billy's again. I want some top from like two sets of twins. Twin, twin, twins, yeah, yeah. Hey, bitch,
bitch.
Where your friends, yeah, yeah.
Hold up,
switch.
Hold up.
She won't end, yeah, yeah. Parliament, falling in bundles of flowers like Parliament. Never know,
yeah.
Big dog.
My
like
bitch
ours.
Born in a visa.
I don't need her.
Bitch.
Pull a truck top with a eater. Two seater.
Yeah.
New bitch wanna fuck in my AP.
AP.
New freezer.
Aye.
I woke up thinking about bands.
Bitch.
Hop over just to a check when I land.
My
bitch too foreign in a visa.
Bitch.
I don't need her. Pull a truck top with a eater.
Yeah.
Two seater.
Yeah.
New bitch wanna fuck in my AP.
Bitch.
New freezer.
Ooh.
I woke up thinking about bands. Hop over just to a check when I land.
Yeah.
Ça déplace les foules comme ça peut te clouer au lit. Une décharge éclectique, musique, pas de limite.
sa vie. Un grain de folie pour que s'en suive avant de bannir. Un folie, dynamiteur de cérémonie. On vient réveiller ceux qui dorment, cognent la monotonie. Bousculer vos habitudes et modes de vie. Insolite, extravagant, porte des ligues insolentes. Un grain de folie, dynamiteur de cérémonie. On vient réveiller ceux qui dorment, cognent la monotonie. Bousculer vos habitudes et modes de vie. Insolite, extravagant, porte des ligues insolentes.
Enchaînement d'idées, pensées folles, cerveau débridé. Orienté, guidé par des pensées déséquilibrées. Dans ma tête, ça plastique du palais de justice. Je refais de mon pragmatique, misère, je fustige. J'avance, je fais ce que je veux et personne ne m'arrêtera. Je balance une grenade dans une partousse de magistrat. L'allumette dans la raffinerie craque. La robe est archi cramée, l'ennemi finit ricrache.
Ma part folie piquée au stéroïde. Viens briser ma chrysalide, une renaissance hybride. Son rythmique tribal, intrépide MC. J'atténue la monotonie, je viens chloroformer la routine, balayer la déprime aussi. J'ai su forcer les portes pour mieux me sentir. Sortir des sentiers battus pour pas partir abattu et pété.
Dans sa vie, un grain de folie pour que s'en suive avant de panique.
L'ex-tension me fatigue. Entre dans la danse qu'on se ligue. Pour que la folie se répande sur tout le globe. Son perdu ton lobe, on va tout valser. Décoder les normes qui nous emprisonnent. Où c'est en marche dans les sentiers battus. Que le délire se propage. Ne me dis pas que tu n'as rien vu. Allons danser sur les braises d'un empire qui a pris feu. Transformons la détresse en un coup de joie, mon vieux.
Ce qui ne te tue pas te rend fou. Fuir la réalité en fumant mes voix floues. Tenir debout à l'aide de ses convictions. Passer pour un dérangé dans leur bureau bien rangé. Question. Je réfléchirai chacun de mes mots, mais en décalage avec ce monde, je ne serai jamais parfait. Et si c'était un parfait, ils se mêleront de leurs affaires. Je vois qu'une métaphore qu'ils aillent se faire. Éclectique musique, pas de limite, on s'invite. Un grain de folie pour que s'en suive avant de panique. Grain de folie, dynamiteur de cérémonie. On vient réveiller ceux qui dorment, cognent la monotonie. Bousculer vos habitudes et modes de vie. Insolite, extravagant, bord, délicat, solant. Grain de folie, dynamiteur de cérémonie. On vient réveiller ceux qui dorment, cognent la monotonie. Bousculer vos habitudes et modes de vie. Insolite, extravagant, bord, délicat, solant.
Level phase 2. Operation Doomsday.
By the way, I re-up on bad dreams, back up screams in 50s. Re-up on mad schemes that heat shot like Jiffy. Pop, pop. In an instant, get smoked like Winston cigarettes. Holes get ripped off like Nicorette. In real life, the real tripe scene. Might snatch your life like assault machine. Rifle, net up, set up like bullfight. Be blooded how we like, cutting white or in full flight. The unemotional, call me antisocial. On the run, off the gun, death tally commercial. Death Valley is like rehearsal to the streets, to my peeps. GM, MF on the beat, rhymes. It's chosen like the weapons of war. So keep from stepping on my floor or delivery front door. I bring it to y'all motherfuckers, master yours. My disaster cause, hell in gas drawers. The super villain cooler than a million. I'll be chilling, still quick to slice squares like Sicilians. Don't make me have to hurt the feelings. I'll ruin you in the dirt that I be doing in my dealings. Sending spirits through the ceiling, chrome peeling, dome blown. Within the comforts of your own home, grown big. Wheeling and high rolling, I hold in lie, keep the style on my eyes swollen. Holding, following a pal, known as Master Versatile. I like to big them up, Monster Al. Yeah. I saw you in hell with them gas drawers. To my brother Sub Rock and Black 2, I crack brew for two more free men, two up. I hit the brew up like nobody knows how. Extra unseen feels when giving crews a brush with death like between meals. Two times a day with brothers as tight like a noose. With more rhymes than use than Dr. Seuss, a motherfucking mother goose. Exorcist, Mrs. Flirter, whoever you hook or hurt her. Next to malicious murder, track type vicious. Fulfilling the pipe wishes, the missus may be legal. Minus the baby eagle, any given summer's eve, don't breathe. 16 shots, I do believe, and one up the sleeve. Master of the O, who predict your last pause? I told y'all, hell and gas, drawers breaking, glass and plastic jaw like federal drastic law. Fetter from fighting secret war with them fantastic four.
Invisible bitch.
Versus doom with the metal face before it go to state. The whole better settle case, the flow is at pedal pace. Steady like tricycles, beware all suckers, froze like icicles.
Bag them up.
And bag them expenses like nickels, cause I licked them where they tickle. Before I hit the clip though, I'ma spit till I pronounce more hits than an ounce, no doubt. About to bounce, extra unannounced, I'm out. And I like to give a shout out to the brother Jet Jaguar, Megalon.